Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série « Est-ce que Jésus est mort uniquement par les Romains et les Juifs ?» Question très importante que nous allons étudier dans toutes ces séries. Nous arrivons à l'étude numéro 10 et nous sommes à la 41e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour garantir notre résurrection d'entre les morts. Chers amis, nous devons répéter, car c'est très important, que nous n'allons pas jusqu'à affirmer que sans le corps, nous ne pouvons avoir de vie consciente. La Sainte Bible ne l'enseigne pas. Jésus-Christ est mort, non seulement pour racheter le corps, mais aussi pour lier l'âme si fortement à lui-même, que même sans corps, nous sommes avec le Seigneur. C'est une consolation immense dans la vie et dans la mort. Jésus-Christ est mort pour que nous goûtions à cette espérance. D'un côté, la Sainte Bible explique qu'en perdant le corps dans la mort, l'âme se retrouve nue en quelque sorte. Tandis que nous sommes dans cette tente qui est le corps, nous gémissons. Nous gémissons parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous aimerions nous revêtir, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 4. Autrement dit, nous préférerions passer de ce corps à celui de la résurrection, sans connaître cette phase intermédiaire durant laquelle le corps repose dans la tombe. Ce sera l'expérience de ceux qui seront en vie lorsque le Seigneur reviendra du ciel. Mais d'un autre côté, la Sainte Bible exalte cette période intermédiaire où notre âme sera au ciel et notre corps dans la tombe. Ce n'est pas encore la gloire finale, mais c'est déjà très glorieux. Voyez-vous, il est écrit en Philippiens chapitre 1, verset 21, « Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Un gain? Oui, la perte provisoire du corps. Dans un sens, nous serons dévêtus, d'accord. Et pourtant, ce sera un gain. Pourquoi? Parce que pour le chrétien, mourir signifie rejoindre Jésus-Christ dans notre âme et par notre âme. Comme l'affirme du reste l'apôtre Paul, quand il dit en Philippiens 1, verset 21 et verset 23, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Oui, de beaucoup le meilleur. D'accord, pas encore le mieux absolu, qui viendra lorsque le corps ressuscitera plein de force et de gloire, mais ce sera déjà de beaucoup le meilleur, car nous serons déjà avec Jésus-Christ de façon plus intime que maintenant. C'est pourquoi les premiers chrétiens pouvaient dire « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » 2 Corinthiens 5, verset 8. Nous ne cessons donc pas d'exister, pas du tout. lorsque nous mourrons. Mais nous ne sombrons pas dans une sorte de sommeil de l'âme. Non, non, non. Nous qui croyons en Jésus-Christ, allons auprès de Jésus-Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est un gain, nous dit l'apôtre Paul. C'est l'une des grandes raisons des souffrances de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, soit que nous vivions ensemble avec lui, 1 Thessaloniciens 5, verset 10, comme s'il dormait, eh bien le corps repose dans la tombe. Mais, nous vivons au ciel maintenant, auprès de Jésus-Christ. Ce n'est évidemment, je l'ai déjà dit, pas notre espérance ultime, car un jour, notre corps ressuscitera. C'est pas moi qui le dis, c'est confirmé par les Saintes Écritures. En attendant, le fait d'être avec Jésus-Christ est une expérience qui n'a absolument pas de prix. Chers amis, il est dit en Romains chapitre 6, verset 5, et croyez-moi, nous ne vous enseignons pas une théologie personnelle. On ne le permettrait pas. Ce serait un crime. On aura des comptes à rendre devant Dieu si on vous enseigne autre chose que la sainte parole. Donc il est dit en Romains chapitre 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, Dieu le Père, habite en vous, en toi, en moi, celui, le Papa céleste, qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Notez Romains, chapitre 8, verset 11. Donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Notez 2 Timothée 2, verset 11. Les clés de la mort étaient en quelque sorte accrochées à l'intérieur du tombeau de Jésus. De l'extérieur, Jésus pouvait accomplir beaucoup d'œuvres prodigieuses, notamment ressusciter une fille de 12 ans et deux hommes. Mais, bien entendu, chacun a dû, de même, mourir un jour plus tard. Notez Saint Marc chapitre 5, versets 41 et 42, et notez aussi Saint Luc chapitre 7, versets 14 et 15, et encore Saint Jean chapitre 11, versets 43 et 44. Oui, vous savez, vous n'entendez rien d'autre que la sainte parole de Dieu. Rien d'autre. Pour que quelqu'un puisse ressusciter et ne plus jamais mourir, il fallait donc que Jésus-Christ meure pour lui, entre dans le tombeau, prenne la clé et ferme la porte de la mort de l'intérieur. La résurrection de Jésus, c'est le cadeau divin, un cadeau divin. Et c'est la preuve que sa mort a été un succès total pour effacer les péchés et de détourner la colère de Dieu. C'est ce que soulignent les mots de Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9, où il est dit que c'est pourquoi Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé. J'ai dit Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Sur la croix, le Fils de Dieu s'est écrié « Tout est maintenant accompli ». Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Par la résurrection, Dieu le Père a répondu « Oui, en effet, tout est maintenant accompli ». La mort de Jésus-Christ, c'est l'œuvre grandiose qui règle le paiement de notre dette et qui confère la justice et qui satisfait la justice de Dieu. Dans le tombeau, Jésus a reçu le droit et le pouvoir de prendre les clés de la mort et d'en ouvrir la porte pour tous ceux, pour toi, comme pour moi, qui viennent à lui par la foi. Si la dette du péché a été réglée, la justice a été obtenue et les exigences de Dieu satisfaites, eh bien plus rien ne peut retenir Jésus-Christ ni son peuple dans la mort. Et c'est pourquoi Jésus déclare, il déclare d'une voix forte, « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. » Dit Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 1, verset 18. Voyez-vous, la Sainte Bible, elle résonne d'une vérité extraordinaire. Appartenir à Jésus, cela signifie ressusciter d'entre les morts avec lui. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Notez Romains chapitre 6, verset 5. Si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, alors croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui tous ceux, toi, moi, et tous ceux que tu connais qui sont décédés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Donc, Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Est-il dit, et c'est pas moi qui le dis, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. C'est donc là que réside le lien entre la mort de Christ et notre résurrection. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, verset 56. Cela signifie que nous avons tous péché et que la loi condamne les pécheurs à la mort éternelle. Lisez l'Ancien Testament pour bien comprendre ceci. Mais voyez-vous, le texte continue ainsi. Grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 57. En d'autres mots, la vie et la mort de Jésus ont satisfait les exigences de la loi, les péchés sont donc pardonnés et l'aiguillon du péché est ôté. En conséquence, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et non pas qui pensent que c'est Mohammed ou Bouddha qui peut faire quelque chose pour eux. Non, non, non. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne seront pas condamnés à la mort éternelle, mais ils ressusciteront incorruptibles. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, que la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 52 et 54. Soyez donc frappés de stupeur et venez à Jésus-Christ. Jésus vous invite. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Ô Seigneur, je te demande de tout cœur de m'aider à dire tout ce que tu me fais dire par le Saint-Esprit jusqu'à la fin de ce CD, car par moi-même je ne le peux pas. Merci de m'aider jusqu'au bout. Oh, merci. La 42e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour désarmer les dominations et les autorités. Il, Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Donc, notez bien, 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Et n'oubliez jamais, le Fils de Dieu, il a paru afin de détruire toutes les œuvres du diable. Dans la Sainte Bible, les mots domination et autorité peuvent désigner des gouvernements humains. Mais, quand il est dit, comme dans le premier passage, que sur la croix, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités, qu'il les a livrées publiquement en spectacle, et qu'il a triomphé d'elles, il ne peut donc pas s'agir autre chose que des puissances démoniaques, les esprits du mal qui asservissent le monde. L'une des déclarations les plus explicites concernant ses pouvoirs, elle se trouve en Éphésiens chapitre 6, verset 12, où l'apôtre Paul déclare que le chrétien n'a pas à lutter uniquement contre la chair et le sang, mais contre les dominations, oui, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants qui sont méchants, qui se trouvent dans les lieux célestes. Notez encore Saint Jean, chapitre 12, verset 31. Voyez-vous, Satan, rappelez-vous, il est appelé le prince de ce monde à trois reprises. Donc, face à la croix, Jésus a déclaré, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Sa mort marque donc la défaite décisive du prince de ce monde. Le diable, et avec la sienne, toutes celles de tous les anges déchus, eh bien tous ont reçu le coup décisif lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Ils n'ont cependant pas cessé d'exister. Oh, non, non, non. Ils sont là à nous guetter pour nous faire tomber. Nous nous débattons journellement contre eux. Mais il s'agit d'un ennemi qui a été maintenant vaincu. Et nous savons que nous aurons la victoire finale. C'est comme un dragon dont la tête est coupée. Voyez-vous, dans la mort de Jésus, Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14, et notez aussi le chapitre 7 de Colossiens. C'est donc ainsi qu'il a dépouillé Jésus, les dominations et les autorités, et qu'il les a livrées publiquement en spectacle. La loi de Dieu ne nous condamne donc plus parce que Jésus-Christ a annulé notre dette. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas le pape. Satan n'a plus de raison de nous accuser. Avant la venue de Jésus-Christ, Satan faisait tout son possible pour accuser le peuple de Dieu. D'ailleurs, le nom même de Satan, il signifie accusateur, il signifie adversaire. Or, écoutons ce qui est arrivé lorsque Jésus-Christ est mort. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, « J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui a dit, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » C'est donc la défaite, c'est le désarmement de toutes les dominations et de toutes les autorités. Donc, chers amis, en Jésus-Christ, aucune accusation ne tient plus contre les élus de Dieu. Qui, je vous le demande, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu, c'est lui seul qui justifie, et non pas Bouddha, et non pas Mohammed, et non pas le pape. Romains chapitre 8, verset 33, Alléluia. Ni l'homme, ni Satan ne peuvent accuser valablement. Le procès est donc clos. Jésus-Christ est notre justice. Il est notre accusateur qui est totalement désarmé. Oui, notre accusateur est maintenant terminé, désarmé, il ne peut plus rien contre toi. Car s'il tente de faire entendre sa voix au tribunal céleste, eh bien, il sera couvert de confusion. Avec quel courage et avec quelle liberté nous devrions servir Jésus et aimer notre prochain dans le monde. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis. Tournons donc le dos aux tentations, je dis bien, du diable. Et il y en a aujourd'hui plus que jamais. Mais ces promesses ne sont que mensonges. Et il est dépouillé maintenant. Il est totalement dépouillé de tout son pouvoir. Nous pouvons avoir la victoire en et par Jésus-Christ. La 43e raison pourquoi Jésus devait mourir. Jésus doit mourir pour libérer la puissance de Dieu contenue dans l'Évangile. Notez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, pour toi et pour moi, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et notez encore Romains, chapitre 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut, mais, écoute bien la suite, pour le salut de quiconque croit, toi, moi, et tous tes amis, du juif premièrement, ainsi que du grec, c'est-à-dire du non-juif que nous sommes. Romains chapitre 1, verset 16. Évangile, cela signifie la bonne nouvelle, die gute Nachricht. C'est une nouvelle avant d'être de la théologie. Une nouvelle, c'est l'annonce que quelque chose d'important est arrivé. Une bonne nouvelle, cela laisse présager que ce qui s'est produit rendra le destinataire heureux. L'Évangile est donc la meilleure de toutes les nouvelles, car ce qu'il relate rend les hommes heureux à jamais. Ce n'est pas les nouvelles de M. Macron, le Jupiter. Non, ce n'est pas les bonnes nouvelles de la présidente, plutôt, plus que cela, allemande, la Merkel. Ce n'est pas non plus la bonne nouvelle de Donald, ni de Poutine. L'Évangile relate donc la mort et la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul souligne très clairement la qualité de la nouvelle apportée par l'Évangile. Il dit en 1 Corinthiens 15, versets 1 à 7, « Je vous rappelle l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés. » Tout cela selon les Saintes Écritures, que Jésus a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Saintes Écritures. Notez 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 7, mes chers amis. Au centre de l'Évangile se trouve cette affirmation qui dit que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et en déclarant que plusieurs de ses témoins étaient encore en vie, eh bien l'apôtre a souligné que l'Évangile repose sur des faits authentiques. Hélas, beaucoup considèrent cette bonne nouvelle comme étant une folie. Ils disent « c'est de la folie, il faut être barjoc, ça n'existe pas, il faut être timbré, il faut être soigné par des psychiatres ». Mais l'apôtre Paul le dit bien, que la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent, et il y en a qui périssent autour de nous plus que jamais, par ces chaleurs terribles de canicule. Même, il y a des morts pas forcément qui sont âgés, il y en a en dessous de 50 ans, qui sont morts par la chaleur. Et c'est pas le tout. Le pire est à venir. C'est pas moi qui le dis. Notez, vous pouvez écouter toute la série sur les prophéties, sur Internet, www.bibleexplique.ch. Écoutez toute la série des prophéties de la fin de ce monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous avons été rachetés. Tout cela est une puissance de Dieu pour nous. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Et c'est cette puissance-là que Jésus est venu libérer et pour mourir, pour nous libérer, pour te libérer. Donc l'évangile, c'est bien la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1 verset 16. Pourquoi tous ne considèrent-ils pas la mort de Jésus comme une bonne nouvelle? Pourquoi? Eh bien, avant de l'accepter par la foi, nous devons en reconnaître la véracité et la valeur. La question, elle se pose donc en termes un peu différents. Pourquoi les uns considèrent-ils cette mort comme étant bonne et les autres comme représentant rien du tout? Eh bien, une réponse se trouve en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Ce n'est pas le tout d'avoir Bac plus 5 afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Par ailleurs, la nature humaine pécheresse, elle est absolument insensible à la véritable réalité spirituelle, car l'homme naturel, il n'accepte pas les choses de l'Esprit Saint de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles sont une folie pour lui. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et la 44e raison, pourquoi Jésus devait mourir? Eh bien, Jésus doit mourir pour mettre fin à l'hostilité entre les races. Oh là là! Être raciste, malheureusement, ça existe. Et ça va pas diminuer, surtout avec tous ceux qui, dont une partie meurt en route, dans la mer, mais certains y arrivent, eh bien ça donne de la haine. Il y a des pays, je ne veux pas les citer, je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut du mal à qui que ce soit, mais il y a des pays que vous connaissez qui ont dit « nous n'accepterons pas un seul de ces asylanten, de ces réfugiés, pas un seul. Nous préférons de payer quelque chose, mais on n'en acceptera pas. » Oui. Il a donc, Jésus, il a renversé le mur de séparation. Notez Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 16. La suspicion, les préjugés et les attitudes méprisantes entre les uns et les autres, constitue un très grave problème ethnique et racial à l'époque du Nouveau Testament et sont donc à l'origine d'hostilités entre les nations aujourd'hui. Ce qui est arrivé entre ces phases, parfois appelées l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul à Antioche, illustre bien cet antagonisme. Je ne veux pas vous citer tout cela, vous pouvez lire Galates, chapitre 2, versets 11 et 12. L'apôtre Pierre avait d'abord agi conformément à sa liberté en Jésus-Christ, bien qu'il était juif converti, il avait mangé avec des chrétiens d'origine païenne, notre ami Pierre. Le mur de séparation entre eux avait donc été aboli, l'hostilité avait été surmontée, Jésus-Christ était précisément venu pour cela. Mais lorsque quelques juifs conservateurs sont arrivés à Antioche, notre ami Céphase, l'apôtre Pierre, a été pris de panique et il a redouté les critiques, si bien qu'il a pris ses distances avec les non-juifs. Et l'apôtre Paul, il s'en est rendu compte. Notez Galates, chapitre 2, verset 14. Lisez cela tranquillement. C'est donc une déclaration cruciale. L'Évangile s'intéresse aux questions raciales et ethniques. La peur de l'apôtre Pierre et son refus de maintenir la communion fraternelle par-delà les frontières ethniques n'était pas selon la vérité de l'Évangile. Jésus-Christ était mort justement pour renverser ce mur et l'apôtre Pierre était en train de le relever. Il y en a actuellement des pays qui relèvent des murs aussi hauts que possible, quitte de mettre par-dessus encore des barbelés. L'apôtre Paul a refusé de s'attacher au statu quo et de maintenir une paix au sacrifice de la vérité de l'Évangile. Il s'est opposé ouvertement. Et donc, Jésus, rappelons-nous toujours, il est mort pour créer un tout nouveau moyen de réconciliation. Réconciliation entre toutes les races. L'entente joyeuse entre les peuples ne peut donc se bâtir sur les concepts de rites et de races. Cette nouvelle coexistence ne peut donc que se fonder sur Jésus-Christ qui, lui, a parfaitement accompli la loi. Il est impossible d'édifier une unité durable entre les races en disant que toutes les religions se valent. Non, non, non. Jésus-Christ seul est le Fils de Dieu. Ce n'est pas Mahomet. Ce n'est pas Bouddha et ce n'est pas le pape. Dieu l'a envoyé dans le monde comme seul et unique moyen de salut des pécheurs et pour la réconciliation entre les races. Si nous rejetons cette vérité-là, eh bien nous sapons les fondements même de l'espoir éternel et de l'unité durable entre les peuples. Et la 45e raison pourquoi Jésus devait mourir, eh bien Jésus doit mourir pour racheter des hommes et des femmes de tout peuple et de toute nation. Notez Apocalypse chapitre 5, verset 9. Il est dit, tu es seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang précieux, les hommes et les femmes de toute tribu et de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Die Offenbarung, Apocalypse, chapitre 5, verset 9. La scène, elle se déroule au ciel. Dieu a donné à l'apôtre Jean un aperçu de l'avenir. Il l'a vu, selon Apocalypse 5, verset 1, quand il a dit, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre scellé de 7 sceaux. L'ouverture du livre correspond au déroulement de l'histoire future. L'apôtre Jean s'afflige de ce que personne ne soit trouvé digne d'ouvrir le livre. Alors l'un des êtres célestes lui dit, « Mais ne pleure point, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le rejeton de David. » Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Chapitre 5, verset 5. Ça, c'est une référence à Jésus-Christ, une référence au Messie. Il a conquis ce droit. Oui, il a conquis ce droit par sa mort, ainsi que par sa résurrection. L'apôtre Jean le contemple et il dit, j'ai vu un agneau qui était là comme immolé, chapitre 5, verset 6. Les êtres célestes qui entourent le trône se prosternèrent alors et tous adorèrent Jésus. Ils entonnèrent un cantique nouveau. Curieusement, le cantique déclare que Christ est digne et seul digne d'ouvrir le livre en vertu de sa mort. Celle-ci était donc nécessaire pour l'accomplissement global du plan de Dieu dans notre histoire. Oui, c'était vrai. Christ est mort. Il est mort pour sauver une grande diversité de peuples. Le péché ne respecte pas du tout les cultures. Dans toutes les cultures, le péché s'y trouve. Tous les peuples ont donc péché. Toutes les races et cultures ont besoin d'être réconciliées avec Dieu le Père. Puisque la maladie du péché, elle s'étend à toute la terre, le remède, le droit, lui aussi. Donc face à l'agonie de la croix, eh bien Jésus a révélé très clairement l'étendue de son dessein quand il a dit « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes et les femmes à moi. » Saint Jean, chapitre 12, verset 32. En envisageant sa mort, il la voyait de dimension globale. Le christianisme, il a pris naissance au Moyen-Orient et au fil des siècles, son centre s'est déplacé vers l'Occident. Mais aujourd'hui, il est de moins en moins une religion occidentale. L'Occident est en train de devenir plus païen que jamais. Ce n'est pas une surprise pour Jésus-Christ, car l'Ancien Testament avait déjà annoncé qu'il serait universel. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations, elles se prosterneront devant ta face. Psaume 22, verset 28. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Notez Psaume 67, verset 5. Vers la fin de son ministère terrestre, Jésus a précisé sa mission, à savoir que le Christ souffrirait, mais qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son Saint-Nom à toutes les nations. Saint-Luc, chapitre 24, versets 46 et 47. Donc son ordre missionnaire aux disciples ne laisse planer aucun doute. Il est dit « Go into all the world and preach the gospel. » Allez et faites de toutes les nations des disciples. Saint Matthieu chapitre 28 verset 19. Donc Jésus n'est pas une divinité tribale. Jésus n'appartient pas à une culture ou à un groupe ethnique spécifique. Jésus, il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Saint Jean chapitre 1 verset 29. Il n'y a donc aucune différence, en effet, entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Notez Romains chapitre 10, versets 12 et 13. Je répète. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Invoquez-le donc et rejoignez la grande assemblée des rachetés. Chers amis, maintenant, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre encouragement personnel, mais pas seulement, mais aussi pour votre édification personnelle. Donc, le Seigneur nous dit, écoutez bien, le Seigneur nous dit, vous n'entrerez en moi que autant que vous sortirez de vous-même. Comme on possède en soi la paix lorsque on ne désire rien au dehors, ainsi le renoncement intérieur unit à Dieu. Le Seigneur demande que nous apprenions à nous renoncer assez parfaitement pour nous soumettre à sa volonté sans répugnance et sans murmure. Suivez-moi, dit le Seigneur, car je suis la vie, je suis la voie. Sans la voie, on n'avance pas. Sans la vérité, on ne connaît pas et on ne vit point sans la vie. Je suis la voie que vous devez suivre. Je suis la vérité que vous devez croire. Et je suis la vie que vous devez espérer. Oui, je suis la voie qui n'égare point. Je suis la vérité qui ne trompe point. Et je suis la vie qui ne finira jamais. Je suis la voie droite. Je suis la vérité souveraine. Je suis la véritable vie, la vie bienheureuse et la vie incréée. Si vous demeurez dans ma voie, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera, et vous obtiendrez la vie éternelle. Si vous voulez parvenir à la vie, gardez donc mes commandements. Si vous voulez connaître la vérité, croyez-moi. Si vous voulez être parfait, vendez tout ce qui est du superflu. Si vous voulez être mon disciple, renoncez-vous à vous-même. Si vous voulez posséder la vie bienheureuse, méprisez la vie présente. Si vous voulez être élevé dans le ciel, humiliez-vous sur cette terre. Si vous voulez régner avec moi, oubliez tout orgueil, car les serviteurs de la croix trouvent seuls la voie de la béatitude et de la véritable lumière. Seigneur Jésus-Christ, puisque ta vie était pauvre et que le monde la méprisait, ô, donne-moi de t'imiter et d'être aussi méprisé du monde, car le serviteur n'est pas plus grand que celui qu'il sert, ni le disciple au-dessus de son maître. Que le serviteur travaille à se former sur la vie de Jésus-Christ, parce que là est son salut et se trouve la vérité, la véritable sainteté. Tout ce que je lis, tout ce que j'entends hors de cette vie céleste ne me console ni ne me satisfait pleinement. Le Seigneur Dieu, il dit, puisque vous avez lu et que vous savez toutes ces choses, vous serez heureux si vous les pratiquez. Celui-là qui m'aime, c'est lui qui connaît et qui observe mes commandements, et je l'aimerai également, et je me manifesterai à lui, à elle, et je la ferai asseoir avec moi dans le royaume de mon Père. Oh oui, oui Seigneur Jésus, qu'il soit fait selon ta parole et selon ta promesse. Rends-moi digne de ce bonheur immense. Tu as offert ta vie pour moi, et je t'offre maintenant la mienne jusqu'à la mort. Certes, la vie d'un chrétien est parfois une croix, mais une croix qui conduit à la gloire. J'ai commencé, il n'est plus permis de retourner en arrière maintenant. Non, il n'y a plus à s'arrêter. Alors mes frères et sœurs, marchons ensemble. Jésus-Christ sera avec nous. Il sera notre soutien. Il sera celui qui est notre chef et notre guide. Voilà donc que notre roi marche devant nous. Il combattra pour nous. Suivons avec courage, que rien, absolument rien, ne nous effraie. Soyons prêts à mourir généreusement dans cette guerre et ne souillons pas notre gloire de la honte d'avoir peut-être fui, tout simplement avoir fui la croix. Et maintenant, chers amis, prions ensemble, s'il vous plaît. La Bible dit, en Apocalypse, chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt. Oh oui, et ma rétribution est avec moi. Elle est avec moi pour rendre à chacun selon ce que est son œuvre. Ô Seigneur, Seigneur notre Père céleste, tu as promis la couronne de la vie éternelle à tous ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. Donne-nous la fidélité dans les plus petites choses afin que nous puissions aussi être fidèles dans les grandes. Accorde-nous l'enfantine simplicité qui nous fera discerner la vérité que nous révèle ton Esprit Saint et inspire-nous aussi le courage, une fois la vérité manifestée, de lui obéir sans hésitation afin qu'elle triomphe autour de nous, en nous et s'il le faut, même contre nous. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime et il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, oui maintenant, là où vous vous trouvez, tout près ou au loin, je vous enlace tous et je vous embrasse tous et je vous dis, soyez bénis, bénis en et par Jésus-Christ. Amen.